Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. C'est Pauk. On est en onde. Ben, on l'a pas tapé lundi, fait que ça va être intemporel. Frank, des fois, il lit des livres. C'est pour ça qu'il est plus intelligent que moi.
Oui, c'est une suggestion d'un auditeur, en fait, qui nous envoie. Vous me pardonnerez, chers auditeurs, j'oublie qui m'a envoyé cette suggestion. On reçoit pas mal des emails puis des messages dans une journée, puis des gens disent tu devrais écouter tel documentaire, clique là-dessus, ça dure 9h30.
Ouais, peut-être pas. Si on écoutait tout ce que le monde nous envoie, je pense qu'il faudrait que je cancelle un peu de job.
Ouais, puis que tu divorces aussi, là.
Probablement.
C'est pas l'affaire, là. C'est un peu ça. Là. Mais c'est ça, quelqu'un m'avait envoyé le lien pour ce bouquin-là. En fait, c'est un petit pamphlet écrit par une sociologue française qui s'appelle Nathalie Heinich, qui s'appelle « Ce que le militantisme fait à la recherche ». D'ailleurs, c'est drôle, il y a le prix sur le livre. 3,90 €.
Ça, c'est... Wow! À ta peu, là.
Ça vieillit toujours mal quand on écrit le prix sur quelque chose. T'sais, des fois, tu vas acheter des... J'ai jamais compris. Il y a plusieurs maisons d'édition, même québécoises, qui faisaient ça. T'écris le prix dessus. Là, t'es comme... T'arrives, mettons, 10 ans plus tard, t'es comme... Ah, ouais, il y a déjà quelqu'un qui a payé...
OK, toi, t'as pas payé 3,90 €, là.
Moi, j'ai payé... je l'ai acheté sur Amazon parce que, justement, regarde, voici le lien pour les gens qui vont vouloir se le procurer. Ça se trouve sur Amazon.ca très facilement. 7,52 €.
Ben c'est un bon prix pareil.
Fait que
c'est pas loin de 3,90 €.
Ben c'est ça. Pour calculer les euros, grosso modo, tu divises par 2, tu fais x3. C'est un calcul rapide dans ta tête. Là. Fait que c'est ouais.
C'est assez proche.
On est quand même assez proche. Bon, c'est.
Comment ça qu'il n'y a pas de livre à 7$ au Québec? Ben, il y en a un là, sur le site de votre conseiller.net, ça s'appelle D'endetté millionnaire.
Ouais. Ben, honnêtement, t'sais, lui, t'sais, c'est cartonné, il n'y a même pas de vrai truc, c'est tout petit, là. C'est un pamphlet.
C'est-tu bon?
C'est bon. L'affaire, c'est que la raison pour laquelle je vais en parler aujourd'hui, c'est que c'est excellent. Donc, comme le titre l'indique, ça parle du militantisme. En fait, je lisais cette semaine encore, il y avait un éditorial de Jordan Peterson dans le National Post qui s'appelait Nos universités pourries. Et on a suivi aussi un peu, ça va être un peu décalé pour les gens qui nous écoutent, là, parce que nous, on est vendredi, vous nous écoutez probablement lundi, même plus tard pour plusieurs personnes qui ont du décalage. Mais tu sais, on a vu l'histoire avec Sylvain Charlebois, tu sais, qui disait, ouais, un matin un peu, là, les 165 académiques, c'est du monde recruté. Ben, tu sais, c'est du monde, si on a un genre de programme par Environnement Canada, on les incite à supporter le gouvernement, tu sais, attends un peu, là, faut comment prendre puis en laisser là-dedans. L'indépendance puis la liberté académique, il y a comme des genres de bémols à mettre là-dessus. Là. Et c'est de ça dont tu parles dans le livre. Je la présente brièvement, Nathalie Heinich. Je ne sais pas le genre de profil. Honnêtement, je vais te lire un peu son profil. Tu vas me dire, ah ouais, t'es-tu sûr qu'elle a écrit un livre dont on a envie de parler?
Le tweet que tu penses, c'est celui-là ici.
Oui, exact. C'est. Moi, j'ai un malaise perso avec ça. Il dit en gros, on a vu. Traduis le don en français, ça va être plus facile pour la compréhension des auditeurs, juste en dessous de. Ouais, exact.
Au cours des dernières semaines, on a appris que de nombreux ONG financés par le gouvernement fédéral au Canada et spécialisés dans l'alimentation avaient reçu une lettre d'Environnement Canada dirigée par le ministre Guilbeault. Demandant au groupe d'appuyer publiquement la taxe sur le carbone et les réductions. Donc, contraire à l'éthique.
Ouais. C'est ça. Moi, perso, j'ai un malaise avec cette manière de faire-là. C'est très malaisant. Et c'est un peu de ce genre de choses-là qu'elle parle dans son livre. Donc, Nathalie Heinich, elle est née le 3 août 1955 à Marseille. C'est une sociologue française et son champ de compétence à la base, c'est l'art et l'art contemporain. Là, tu te dis, cibole, mais comment...
C'est pas une économiste, hein?
C'est ça. Elle, à la base, c'est une sociologue. T'sais, tu t'imagines le profil, madame très à gauche, qui est dans la sociologie de l'art et autres. Tu t'attends pas à lire quelque chose comme ça. Je connais pas son histoire particulièrement de pourquoi elle en est venue à traiter de ces sujets-là. Mais ce que je sais, c'est que, bon, elle était extrêmement productive. Ça, en général, quelqu'un qui est de gauche, c'est très productif, le reste pas longtemps. Donc, elle... donc, je regarde la liste de ses publications, mon gars, là, c'est malade. Là. L'ambivalence de l'émancipation de la femme, art et création, pourquoi Bourdieu, le bêtisier du sociologue, la fabrique du patrimoine, a dû écrire, là, je regarde ça à brûle pour point, au-dessus d'une trentaine de livres.
Le bêtisier du sociologue, elle doit être très appréciée de ses collègues.
Oui, et là, depuis quelques années, elle parle beaucoup plus de politique. Donc, elle a publié un livre l'année passée que j'ai pas lu encore, mais qu'après avoir lu celui-là, je pense que ça va être pas pire, qui s'appelle « Le wokisme est-il un totalitarisme? » publié l'année passée chez Albin Michel. Elle a écrit un livre aussi qui s'appelle « Une histoire de France ». Fait que c'est une madame, finalement, qui écrit sur beaucoup de choses, qui a pas un profil très typique là, pour... Ça, c'est le genre de livre que tu t'attends de lire ça d'un... C'est un genre d'académique américain un peu blasé où justement tu t'attends à ce soit un genre de Jordan Peterson qui écrive ça. Fait que grosso modo, son petit pamphlet, là, je saute des bouts parce que au début, tu sais, bon, il y a une genre de mise en bouche un peu sur pourquoi elle écrit le livre puis tout ça. Mais c'est pas très long. Direct en page 8, elle saute dans le gras. Je veux vous lire un premier extrait. Je pense que, honnêtement, la distinction qu'elle fait est intéressante parce qu'en gros, elle dénonce le militantisme à l'université et dans les sciences sociales et même les sciences pures à proprement parler. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais les professeurs, c'est des êtres humains libres aussi, ont le droit d'être des militants. » Et son propos, je trouve qu'il est intéressant. Elle, elle ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit d'être des militants. Elle dit « Il y a certains lieux au contexte où ils n'ont pas le droit de l'être, où ils ne devraient pas l'être plutôt. » Et voici ce qu'elle dit. Elle dit « Ce n'est pas le militantisme en tant que tel qui est critiquable, mais seulement sa pratique dans les lieux où il n'a pas sa place. » Et par lieu...
De cause, hein.
Et par lieu, je n'entends pas ici un établissement ou un lieu physique. Le militantisme syndical, par exemple, voire politique, est parfaitement admissible dans des espaces et des espaces d'accueil ou les couloirs de l'université. Mais une fois franchi le seuil des amphithéâtres, une fois soumis à une revue scientifique, à expertise par les pairs, un enseignement ou un article devrait s'affranchir de toute visée politique ou morale au profit de la seule recherche de la vérité.
Autrement dit, là, le professeur, il a le droit d'aller dans un couloir et de poser des pamphlets pour organiser une grande manifestation sur le droit des femmes. Par contre, quand tu as des étudiants en avant de toi, peut-être pas à place. C'est peut-être pas à place de faire ton militantisme.
Oui, et c'est pour ça que le livre s'appelle « Ce qu'il fait à la recherche », parce qu'elle, le point qu'elle fait vraiment, c'est à la limite même que le prof soit militant dans sa classe, et puis qu'ils disent du mal de Macron ou de Le Pen ou whatever, who cares? Mais quand tu publies de la recherche, puis tu fais des articles qui sont supposés être des articles scientifiques...
Révisés par les pairs.
Là, c'est rempli de jugement moral,
Ça n'a pas sa place.
De militantisme politique, là, ça n'a pas sa place, parce que ce que tu fais, c'est que tu dénatures l'objectif de la recherche universitaire qui est... universitaire, ça le dit, d'essayer de produire des connaissances qui peuvent servir. Et là, écoute bien ce qu'elle dit, c'est quand même...
Tu sais, à la base, là, un département d'études féministes, alors que le féminisme est clairement un mouvement politique, social, de militantisme. Mm-hmm. Même le titre du cours comme tel. Ou
de, ouais, c'est déjà orienté.
Le titre de la profession ne fait pas de sens.
Absolument. Et là, il rajoute, « Faut-il rappeler que les enseignants, chercheurs, sont rémunérés par leurs concitoyens pour produire et transmettre du savoir? Rien d'autre. Utiliser ce privilège pour d'autres activités, notamment militantes, qu'est-ce d'autre qu'un détournement de fonds publics? »
On sait qu'il y en a qui font ça, hein?
Ça, c'est la première fois que je le voyais écrit de cette manière.
Ça en est du détournement de fonds publics.
Parce qu'elle a dit, en gros, on paye des enseignants pour quoi? Produire de la recherche, enseigner, former une nouvelle génération. On ne les paye pas pour faire du recrutement politique. Là. On ne les paye pas pour enrôler des gens dans un genre de siècle. C'est pas ça le but. Le but, tu sais, t'engages un enseignant à McGill. Tu te dis, toi, tu vas enseigner la comptabilité, former des futurs comptables. Je dis n'importe quoi, vous comprenez l'idée. Pourquoi on te paye?
Former des comptables.
Former des comptables. Est-ce qu'on te paye pour recruter des gens pour aller être sur les staffers économiques du NPD?
Non.
La réponse, c'est non. Si tu fais ça pendant ton temps de travail duquel tu es payé pour faire un autre emploi, c'est une forme de détournement de fonds publics.
Imagine, il y a des gens qui animent des comptes anonymes pour attaquer des podcasteurs et des animateurs de radio du Québec. Et ils font ça sur leur temps de travail, payé par des fonds publics, autant dans le fonctionnariat que dans l'enseignement universitaire. C'est spécial,
exact.
Hein?
Exact. Et là, elle dit, souvent on dit, ben, il faut que les professeurs ou les enseignants soient neutres. Ben, elle dit, ce qu'on se fait répondre en général, c'est, ouais, mais ça n'existe pas quelqu'un qui est neutre. Tout le monde a ses biais. Et là, elle amène une autre distinction que je trouve intéressante. Elle dit, quand je parle de neutralité, ça ne consiste pas à nullement, comme le croient ou ceux qui feignent de le croire, à ne jamais exprimer son opinion personnelle. Ce n'est pas ça, la neutralité. Elle consiste à ne le faire que dans l'espace public ou dans l'espace privé, mais pas dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Donc, on te demande pas d'être beige. On veut pas que tu sois beige. On exact. Veut que tu te restreignes. On veut que tu sois conscient de tes biais, que tu sois conscient de tes idées et que tu fasses attention.
Oui, puis, tu sais, en gros, elle dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'une de mes collègues soit de gauche, de droite, militante de tel parti? Elle a le droit de le faire au local des profs. Elle a le droit de le faire dans la cafétéria. Elle a le droit de donner une conférence à l'université. Tout le monde connaît ses biais, mais dans le cadre du cours qu'elle enseigne et des articles qu'elle publie, ben, eux ne doivent pas être teintés de ce militantisme-là. Sinon, en fait, la production scientifique que tu fais, ou en tout cas de connaissances, finalement, ça ne vaut rien. Là.
C'est comme s'il y avait une séparation dans sa tête. Là. Il serait sain d'avoir une forme de séparation entre le rôle de l'enseignant et la personne humaine, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie.
Absolument.
Il n'y a personne qui fait ça, là, Frank.
C'est plus difficile, en tout cas. Mais honnêtement, pour vrai, moi, j'ai déjà eu des profs à l'université que, pour vrai, tu n'aurais jamais su c'est quoi leur opinion générale sur des affaires. Tu le savais, mettons, tu te disais, ah, Chris, je vais aller voir si c'est un Facebook, ce prof-là. Tu vas voir son Facebook, là, tu fais, ah, OK.
Mais Jeff Caron nous le dit, hein. Vous suivez Jeff Caron sur Twitter, vous écoutez les podcasts qu'il fait avec nous, vous savez très clairement quels sont ses biais. Mais il nous le dit ouvertement, il dit, un étudiant dans ma classe, il ne sait pas, il ne s'en rend pas compte. S'il va sur mes comptes sociaux, tout ça, il va s'en rendre compte. Mais dans ma exactement. Classe, il ne peut pas savoir si je suis à gauche, à droite, trop libéralisme ou tout ça. Là. Il dit, moi, j'ai un œil assez objectif sur ben, les affaires. Puis je pense qu'on a de la misère à accepter ça parce que prends juste sa façon d'agir, par exemple, dans la guerre en Ukraine, sa façon d'expliquer d'une manière factuelle, ce qui se passe des deux côtés de la frontière de cette guerre-là, il se fait traiter de pro-russe. Parce qu'il n'y a pas le discours officiel ultra biaisé de nos autorités gouvernementales. C'est comme genre, il y a une propagande qui se fait à l'interne en Amérique du Nord, dans les pays de l'OTAN. C'est comme si le public n'était pas conscient de ces outils de propagande-là et ces affaires-là. Puis que la personne qui arrive qui dit « Voici comment les Ukrainiens pensent. Voici comment les Russes pensent. Voici qu'est-ce qui explique le conflit. » T'es un pro-russe, t'es là, tu te dis, mais vous rendez-vous compte comment vous êtes rendu fucké dans votre analyse?
Ben, un peu ce qu'il a fait avec son. Ce qu'il devait faire avec son allocution sur les valeurs.
Oui.
Canadienne dans la les valeurs projetées dans la diplomatie canadienne à l'étranger. Il le dit très bien dans l'allocution. Moi, je ne suis pas ici pour dire que je suis pour la mouvance LGBT, tout ça. Ce que je vous dis, et ça, c'est sur des faits, c'est qu'à l'étranger, quand vous faites du prêchi-prêcha comme ça, c'est mal reçu. Entendez-le ou entendez-le pas, ça, c'est pas mon opinion, c'est un fait. C'est pas bien, bien compliqué à comprendre.
Cancellé.
Il y a un bout que j'aime à rajouter là-dedans. Elle dit, tu sais, je le sais que ce que je dis là, c'est difficile. Elle dit, le problème est sans doute moins celui de la compréhension. Autrement dit, les gens qui savent, quand je parle avec des gens, ils comprennent très bien ce que je veux dire par là. Donc, le problème est sans doute moins celui de la compréhension que celui de la difficulté à s'interdire à soi-même cette petite jouissance qu'est l'expression de sa propre opinion.
Mmh.
Une discipline que nos collègues imbibés de militantisme académique semblent avoir bien du mal à s'imposer.
Oh, que c'est délicieux, ça.
Autrement dit, ce qu'elle dit, c'est...
Ils savent.
Vous savez très bien que vous n'êtes pas à votre place quand vous commencez à faire du prêchi-prêcha à vos étudiants puis à essayer d'orienter des affaires. Mais c'est plus fort que vous. Parce qu'en fait, vous pensez juste à vous. C'est pour vous, l'important... C'est cette petite voix-là dans votre tête qui vous dit « Ah, j'ai tellement envie de dire ce que je pense là-dessus. Ah, oh, puis fuck it, je le fais pareil. Je le sais que je devrais pas, puis que je suis un professeur, puis je devrais afficher, ne serait-ce que parce que dans ta classe, il doit avoir une composition différente. C'est pas tout le monde dans la classe qui est d'accord avec les opinions du professeur. »
C'est là, je pense, que la défense mentale de cette... Parce que, tu sais, c'est comme dans tout temps. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Dans ce cas-ci, c'est d'être neutre. Tu sais que tu le fais pas. Mais là, ça te prend une justification morale pour ne pas le faire. Et c'est là que beaucoup de professeurs tombent dans la sauce de dire « Ouais, mais de toute façon, dans le reste de la société, c'est l'extrême droite ou c'est la droite qui domine.
Mm. »
Tu sais, c'est le capitalisme qui dicte tout. Donc, comme les étudiants, de toute façon, sont exposés au discours capitaliste 100% du temps à l'extérieur des murs de ma classe, je suis autorisé à me permettre d'avoir un contrepoids. Je pense que, parce que les humains sont des humains, s'ils contreviennent à un principe fondamental, pour y contrevenir, ils doivent se justifier d'abord à eux-mêmes. Mm. C'est ça qui les amène à se justifier dans ma tête.
Oui, je pense que c'est effectivement ça qui les amène à se justifier. Puis là, elle dit, encore là, je sais ce qu'on va me répondre. On va me dire qu'en gros, il y a une frontière qui est floue entre les opinions, les faits, la science, l'idéologie. Là, elle dit honnêtement, ceux qui s'entêtent à nier la différence entre la science, par exemple 2 plus 2 égale 4, et l'idéologie, par exemple la Terre est plate, ont-ils vraiment leur place à l'université?
Ah, je suis d'accord. Fait que là, combien qu'il existe de gens? Des hommes, des femmes? Fini là?
Ah, c'est ça.
On vient de canceller beaucoup de monde à l'université, là.
Et là, elle dit, je le répète, pas d'avant. La neutralité ne consiste-t-elle pas à être objectif? L'objectivité désigne une situation d'arbitrage où il s'agit de départager deux positions, alors que la neutralité consiste à s'abstenir de toute position. Quand dit, il faut quand même prendre savoir de quoi
fait,
qu'on parle.
En fait, je pense que la manière que ce qu'elle veut dire, là, c'est par exemple. Être neutre, c'est pas ne pas vouloir s'aventurer en terrain où est-ce que ça brasse un peu.
C'est ça.
C'est pas ce que Buzetti, par exemple, disait l'extrême sens. C'est pas ça, être neutre. C'est pas dire « Ah non, moi je vois pas ça. »
Moi, j'étais un mélange de tout. Tout le monde est fin, tout le monde est gentil. C'est pas ça, être neutre.
Je vois pas là, ça, c'est extrême. Puis c'est vraiment, vraiment pas ça, être neutre. Être neutre, c'est se discipliner, s'empêcher de teinter les faits de nos opinions.
Exact. C'est comme ça que je l'ai compris aussi. Elle a dit « Rien n'interdit à l'universitaire d'avoir ses opinions et de les exprimer, à condition pour cela qu'il quitte la chaire d'une salle de cours, comme disait Weber, et qu'il sorte dans la rue et parle en public. » Tu sais, des fois, ce que Vincent dit, je dis à mes étudiants, tu dois pas faire de politique, tout ça, c'est son approche à lui. Mais elle dirait plutôt « Mais si tu veux en faire, fais-en. Si tu veux y aller, si tu veux aller militer avec Joe Biden ou Donald Trump ou Emmanuel Macron, whatever, c'est tes affaires. Par contre, quand tu vas revenir dans la classe, qu'on va travailler ensemble sur un projet de recherche, faut pas que tes opinions politiques viennent dénaturer la recherche qu'on fait parce que là, ça te met en porte-à-faux avec des idées que tu as défendues. Ça, c'est ton problème. C'est pas le problème.
Deal avec tes biais.
Deal avec tes biais, finalement. Et là, elle dit, il y a une section ici qui est quand même assez délicieuse, elle dit, le militantisme académique, et ça va vous rappeler une certaine expression, veut le beurre et l'argent du beurre. Malheureusement, elle n'a pas rajouté le cul de la fermière, mais nous autres, on le fait. Elle dit, les plus subtils d'entre eux, donc elle parle des militants universitaires, se plaisent à confondre les valeurs, au sens de jugement de valeur, avec les représentations mentales qui sont celles du chercheur, qui, bien sûr, sont relatives au milieu intellectuel ou au contexte culturel. Donc, en gros, elle dit, évidemment, il n'y a pas personne qui pense qu'il y, y a des individus sans aucun biais neutre qui ont un cerveau vierge de tout préjugé ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, mais confondez pas ça avec vos valeurs slash principes politiques consciemment assumés que vous voulez défendre et des trucs culturels. Que tu sais, genre tout le monde a. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes au Québec, évidemment que la manière de considérer le français, mettons, est perçue par tout le monde différemment de quelqu'un qui vit au Mexique. C'est normal, ça, c'est, de la, c'est notre situation géographique. Mais après, tes valeurs de dire ça, ça devrait être... on devrait faire ça, on devrait défendre ça, telle affaire, ça devrait être interdit. Ça, c'est tes valeurs à toi. C'est toi qui as décidé de défendre ces principes-là. Elle dit... entre une assertion telle que la peine de mort est inacceptable, entre parenthèses, jugement de valeur, et une analyse des différentes conceptions d'un châtiment juste, il y a une marge considérable, une marge que tentent d'écraser les académiques militants en rabattant toute forme de représentation mentale sur un jugement de valeur.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, elle a dit, tu peux très bien parler à tes étudiants, puis écrire un texte puis dire, ben voyez, aux États-Unis, par exemple, dans tel état, on considère que la peine de mort, c'est une chose qui est acceptable. Voici pourquoi. Voici pourquoi dans tel autre état. Il y a une différence entre montrer différents points de vue.
Des gottes brillants.
Ben c'est ça. Mais si tu écris ton article, qui peut être très factuel, mais qu'au travers de ça, tu n'es pas capable de t'empêcher de dire, ben il y a des tarés qui pensent ça. Là, tu sais, je le mets grossièrement, mais vous comprenez un peu...
Parce que c'est un peu plus subtil que ça, là, dans les recherches.
Et elle synthétise un peu ce qu'elle dit avec une formule que je trouve particulièrement brillante. Elle dit « l'impossibilité d'avoir une pureté absolue, donc dans le fond, l'impossibilité d'être neutre absolument, ne doit pas devenir une justification à l'impureté revendiquée. »
Autrement dit, là, tu sais que si tu vas avoir une shape de plage, faut pas que tu ailles manger du fast-food. Mais c'est dur, une vie complète, sans manger un petit McDo. C'est dur. C'est dur. Par contre, faut pas que tu sois au McDo à chaque jour puis que tu t'en revendiques que c'est la meilleure bouffe ever puis que ça devrait être la base de ton alimentation. Se discipliner à éviter le plus possible certaines choses qui ne sont pas correctes, ça ne veut pas dire que tu vas être parfait. Ça veut dire que tu fais tout le temps un effort pour essayer de les éviter. Puis si tu ne réussis pas, tu n'en fais pas un drame, mais tu continues à faire des efforts après pour l'éviter.
Et là, on va arriver à des exemples, parce qu'il y a des exemples dans le livre qui sont quand même assez délicieux. Elle continue avec un point assez important. Elle dit... L'engagement et l'opinion personnelle érigée en vérité objective en même temps que l'argent du beurre de la science qui justifie leur salaire. Le militantisme académique s'ingénie à fournir des preuves de sa scientificité tout en pipotant les règles de méthode et de rigueur conceptuelle. Autant dire qu'ils font semblant d'être scientifiques alors même que l'invocation de ces militants de la même science de leurs travaux, censés être garantis par les enquêtes empiriques, ne résistent guère à n'importe quelle analyse. celles-ci ne sont guère qu'une illustration de ce qui doit être démontré. On entre avec un concept, entre parenthèses, domination, discrimination, racisme systémique. On illustre le phénomène avec des données ad hoc. Et à la sortie, on retrouve le concept sans aucune plus-value de connaissance. Où est la méthode hypothético-déductive permettant de confirmer ou infirmer une hypothèse? Où est la méthode inductive permettant de faire émerger des données et des problématiques pertinentes pour les acteurs? Nulle part, puisque le but de ces enquêtes n'est pas de découvrir, mais de confirmer par l'illustration.
C'est tellement ça. Puis, c'est machiavélique un peu ce qui se passe. Le politique, les gouvernements, par différents financements à des champs de recherche, à toutes sortes de trucs, vient influencer ça. Parce que dites-vous une affaire. Mettons que tu arrives et tu étudies la science du climat de ton côté. Tu as des grants qui viennent des gouvernements qui sont assez évidents. Puis on le sait, les gouvernements ont financé énormément cette science-là dans les dernières années. Quand le ministre Guilbeault il sort avec Environnement Canada puis envoie une lettre aux chercheurs universitaires puis il dit « Hey, est-ce que vous signeriez ça, ce texte-là? » Puis le texte qui est bâti un peu flou, qui ne dit pas grand-chose, tout ça, mais tu sais, qui est assez zen, qui grosso modo dit « Taxe carbone, ça peut être une bonne taxe pour régler certains problèmes. » Est-ce que vous seriez prêt à signer ça? Il y a des gens que sans réfléchir vont le signer parce qu'ils vont lire le texte. « Le texte est correct, je signe. » Ils ne réalisent pas que le politique va arriver de l'autre côté avec sa meute de journalistes qui lui lèchent les bottes, qui vont utiliser ça pour attaquer un adversaire politique. Et les académiques qui signent ça ne s'imaginent pas ça. Mais il y en a d'autres qui vont être un peu entre les deux. Ils vont dire « Je vois qu'est-ce que vous êtes en train de faire. J'ai pas vraiment le goût de signer ça parce que je sais comment vous allez l'utiliser. Mais si je signe pas ça, est-ce que ça se peut que je perde mes grants un jour? »
Ouais, ben c'est ça, là. C'est ça, ça aussi, là. C'est le...
Ça s'opère, ça, là.
Ça se peut-tu que la subvention à ma chaire de recherche, ben, ça revient à ce qu'on disait dans un autre podcast, Yann. Pourquoi, tu disais un peu de manière rhétorique, pourquoi le gouvernement veut subventionner les médias? Ben parce qu'il y a un ascendant dessus. Parce que si je te coupe les fonds, je te coupe les vivres, je peux faire perdre la job à X, Y, Z. Les chaires de... Tu sais, ceux qui sont contre le fait que des grosses compagnies donnent à des universités en disant « Ah, ça devrait être indépendant du marché, tout ça. » Moi, j'ai pas de problème à ce que vous défendiez cette idée-là.
Mais le gouvernement rentre là-dedans. Là.
Mais ça doit être indépendant du gouvernement aussi. Là.
Parce que autrement dit, il n'y a personne qui donne d'argent là, rendu lourd.
Ben, ou en tout cas, il faut que l'argent soit donné, mettons, de manière aléatoire par un tirage ou ce genre de truc-là. Parce que sinon, c'est quoi que tu fais? Ouais, là, le professeur un tel, là, lui, il a déjà dit telle affaire, il défend pas telle autre affaire, puis il a débattu le dernier budget qu'on a fait ou telle autre affaire. Ouais, lui, y a-tu un goon quelque part qui pourrait appeler à l'université dire que s'il se ferme pas à gueule, ça se peut que le renouvellement la subvention avec laquelle il engage 3 co-chercheurs pour écrire avec lui ses articles, ses prochains livres, ça se peut qu'il n'y en ait plus.
Vous pensez que le goon, Kakis, des vidéos de petits cochons, il n'existe pas, vous?
Ouais, puis ça existe au fédéral, ça existe ailleurs.
Quelle anecdote!
Autre section du livre qui s'appelle « Le militantisme académique pervertit l'expertise par les pairs ». Et là, il dit « L'expertise, parlons-en ». Toujours en mars 2021, la section 39, intitulée « Espace, territoire et société » du CNRS, a adopté une motion de soutien à la géographe Rachel Borgie, victime d'attaques indignes, soulignant notamment la créativité, la rigueur et l'éthique scientifique de leurs collègues, qui ne font aucun doute pour celles et ceux qui, depuis le début de sa carrière, ont réalisé des évaluations véritablement scientifiques de ses travaux. Aucun doute, point d'interrogation. J'aimerais savoir qui a expertisé l'article intitulé « De l'espace genré à l'espace queerisé ». Ouvert par l'assertion selon laquelle l'espace public est conçu, géré et modelé sur la base d'une conception dualiste rigide, homme-femme, licite-illicite, homosexuel, hétérosexuel, et il se clôt par la phrase suivante « La géographie de la sexualité, définie et légitimée comme une branche de la géographie, peut contribuer de manière importante au dévoilement des normes des structures de pouvoir qui oppriment et excluent de l'espace public les dissidents, .e.s, sexuel .le.e.s.
Wow.
C'est à, elle, elle écrit, ouais, j'adore, j'aime le style de madame, elle rajoute, c'est à se demander ce qu'aurait été cet article s'il n'avait pas été l'objet d'une évaluation scientifique. Oh, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est délicieux.
Incroyable.
Et je continue. Elle nous dit, les militants académiques, ce sont globalement des médiocres. Oui, 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 Snoop Dogg va arriver. Elle dit, ils ne mettent pas la barre intellectuelle très haute. Le plus stupéfiant est l'aveuglement de tant d'académies militants face à la médiocrité de leur production. Vous avez compris qu'il y a un genre de gradation dans le livre. Plus on approche de la fin, moins est gentil. Ainsi, en dépit des grands airs conceptuels qu'aiment se donner les adeptes des « studies », à coups de pseudo-concepts tape à l'œil, intersectionnalité, blanchité, racialisation, le résultat est souvent peu concluant, voire consternant. Que la Sorbonne, l'université française, vienne de recruter une activiste et militante queer, spécialiste de l'espace genré, oui, vous avez bien lu à la Sorbonne, ne devrait pas nous rassurer quant à l'avenir de cette université. Que vient faire une lutte politique à l'université alors qu'il y a des partis et des associations politiques pour ça? Et qu'un séminaire à l'Université de Montpellier se donne pour objectif de démasculiniser les sciences humaines et sociales? Et c'est à craindre, après les questionnements légitimes sur le point de vue androcentré des chercheurs, on glisse rapidement, cela se passe déjà dans certains départements de littérature, à l'éradication des auteurs hommes du corpus bibliographique. Elle doit longer les murs depuis un bout, là, parce que pour vrai, elle doit se faire détester. Ben, en fait, non.
Détester pour dire la vérité.
Savez-vous quoi? Les réactions doivent être mixtes et c'est les mêmes réactions qu'on a, nous. C'est-à-dire, des gens la détestent et d'autres gens lui écrivent « Ah, merci de dire ce que vous dites. »
Elle doit être ignorée du milieu universitaire, en fait.
Ah, depuis qu'elle écrit ces trucs-là, c'est sûr. C'est ça, c'est sûr et certain. Je continue, il y a quand même quelques autres petits bouts que j'avais soulignés. Elle dit, ah ouais, ça c'est très drôle. Elle dit, ce qui est le plus drôle avec ces gens-là, les militants académiques, c'est qu'ils sont tous persuadés d'être extrêmement originaux. Pourtant, ils répètent toutes les mêmes niaiseries. Et là, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle dit, la barre ne s'élève guère quand les adeptes des studies, persuadés de l'originalité de leurs recherches et des rapports, rapports qu'ils entretiennent aux disciplines traditionnelles, ne voit pas qu'elles se trahissent de suivisme et de monotone répétition des mêmes problématiques répandues comme la dernière mode sur tout le territoire universitaire. Quel sens cela a-t-il de voir fleurir partout les mêmes études de genre, alors que l'activité de recherche est censée découvrir ce qu'on ignorait, plutôt que de rabâcher ce qui est devenu un lieu commun et se donner comme objectif le cumul des connaissances et non pas la transformation du monde? Rien de plus répétitif, donc, de plus monotone et standardisé que ces sujets de thèse, de colloques, de numéros de revues, de séminaires consacrés au genre, à la dénomination, aux discriminations, à la racialisation, tels les parents persuadés d'être originaux en donnant à leurs enfants des prénoms qui se démarquent de la génération précédente, mais ce faisant, ne font que suivre la mode du moment. Les chercheurs militants croient innover par rapport à leurs aînés, mais ne font que rabâcher ce qui traîne déjà un peu partout dans les productions académiques, quitte à inventer des déclinaisons de déclinaisons de déclinaisons. Et là, elle donne un exemple d'un article qui s'appelait « Quelle intersectionnalité pour les « fat studies » et la lutte contre la grossophobie. Pour vrai, ça vaut la peine d'exposer ces trucs-là, parce que les gens, j'oserais dire les gens normaux, là, des fois, ils nous croient pas quand on parle de ces trucs-là.
Non.
T'sais, c'est un peu comme l'histoire d'Eddie Van Roberge qui veut traduire les poils et les laveuses. Tu parles de ça autour de toi, puis les gens sont comme... Pour vrai, t'as inventé ça, là. C'est pas
le monde, sont-tu vraiment choqués que les voltigeurs de Drummondville sur leur gilet, c'était écrit en anglais?
Ouais,
gilet de playoff, là. Tu sais, c'est le gilet que t'as à la fin de la game quand t'as gagné, là. t'es fait vite, là. Puis c'est juste pour dire que t'as un petit souvenir que tu vas avoir. Ils l'ont écrit en anglais. C'est ce petit crotté, ça.
Ouais, c'est ça.
On va envoyer le QLF. On va envoyer le QLF dans junior majeur, dire là. Alors que la Ligue, by the way, elle a répliqué. Hein, elle a dit, écoutez, nous autres, on a deux objectifs. Premièrement, il y a des joueurs étrangers qui viennent jouer au Québec. Beaucoup. Fait que, puis tu sais, il y a beaucoup d'équipes de la Ligue aussi qui sont en dehors du Québec, juste comme ça. fait que, premièrement, c'est plus facile en anglais. Parce que le russe peut comprendre l'anglais. Puis vous comprenez un peu l'idée. Puis deuxièmement, ben, il dit, les jeunes ont une demande pour nous par rapport à l'anglais. Il y a un next step pour eux avec le junior majeur. Ils veulent aller dans East Coast League, ils veulent aller dans la Ligue américaine, ils veulent aller dans la Ligue nationale, ils veulent se développer dans des ligues professionnelles en Europe. 100% de ces vestiaires-là se passent en anglais.
Non, mais là, c'est quoi la prochaine idée, là? C'est quoi la prochaine histoire? Là, Martin Saint-Louis, il animait une pratique un matin, puis il a parlé de Slapshot. Eddie Van Robert, je voyais envoyer un ticket. Hey, tabarnak!
Tu te rappelles-tu quand...
On m'a dit lancer, frapper.
Quand Patrick Roy arrive aux Islanders, il interpelle un francophone, puis il l'interpelle en français. Tout le monde avait un demi-croquant au Québec. T'es là, tu dis, voyons, ça va, les amis. Sans sac. C'est des entreprises privées, ça, là. C'est pas de vos affaires.
Ouais, c'est ça l'affaire aussi. C'est que c'est pas de vos calices d'affaires ce qui se passe dans une business privée. Vos lois autoritaires, puis votre power trip, là, ça va être beau. Là.
Ah, ils sont fatigants, man.
Hey, gérez-vous, là, gérez-vous. Hey! Imagines-tu s'il fallait qu'ils apprennent que les jeunes, les moins jeunes codent en anglais? Ah, parce que dans le coding...
C'est en anglais. If then else. Ouais, c'est pas si... Et puis, je ne sais même pas c'est quoi les deux autres, ça voudrait dire. Pour vrai, en termes de code, ce serait quoi une bonne traduction? Non, c'est if then else qu'elle base. Puis là, ouais, je sais qu'il y a plein de codeurs qui disent « Oh, les shit, ça fait longtemps qu'il n'a pas programmé, lui, dire if then else.
» Ouais, mais... Il appelle ça du C sharp. Là. Il appelle pas ça du C étoile. Ou du C hashtag. Ou je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Là. Mais c'est bref. Mais je vais fermer ma gueule parce que si on a un espion de la CAQ qui nous écoute, la première affaire que tu vas savoir, c'est que Van Roberge va vouloir que le monde code en français.
Puis là, ça dérape. Là, parce que là, ce qu'on disait un matin, c'est qu'il y a des écoles anglaises, élémentaires et secondaires, que ça parle en anglais d'investir de hockey. Ah, on va envoyer le QLF. Là. On va envoyer le QLF. Hey, là, tu es plus capable de autres.
J'ai un bout que tu vas aimer sur le néolibéralisme. Ah, ça vient quand même d'une française, je veux quand même vous rappeler. Moi, je suis très surpris de ce bouquin-là. Quant à son cousin, donc elle parlait d'un autre concept avant, mais la phrase commence comme ça. Quant à leur cousin, le néolibéralisme, il est particulièrement prisé des pseudo-chercheurs indignés à l'idée qu'en soumettant leurs travaux à l'évaluation, on puisse introduire concurrence et compétition dans l'univers enchanté de la recherche. Exiger d'eux une production substantielle et suivie, n'est-ce pas une insulte à leur liberté? Une atteinte inacceptable à leur prérogative, tout droit issue du dogme néolibéral. Il y a du monde qui ne sont pas contents de se faire dire qu'il faut qu'ils produisent. C'est un délice. Écoute, il y en a. Je pourrais continuer, mais les gens que ça intéresse, vous irez voir. Vers la fin, c'est encore pire. Là, un chapitre qui s'appelle Le militantisme académique et monomaniaque.
Bonne lecture, les amis. J'espère
c'est vraiment un bon petit bouquin, Nathalie Heinisch. Vous avez le lien au bas de l'écran. Ce que le militantisme fait à la recherche, vous aurez compris qu'il ne fait pas grand-chose de bien. Puis je pense que la position est intéressante de dire, parce que là, on va opposer, ouais, c'est ça. Toi, tu veux empêcher aux profs de dire ce qu'ils veulent, tu veux censurer du monde. C'est pas ça qu'elle dit.
On encourage l'autodiscipline.
Exactement. Je l'aurais pas mieux dit que ça. On encourage l'autodiscipline.
Mais avez-vous le réflexe, la Statrix, comment que le réflexe des gens qu'on dit, on devrait pas... Lisez la phrase comme faut. On ne devrait pas faire preuve de militantisme dans une salle de classe. Les gens ont le réflexe de dire, c'est ça, tu veux réglementer? OK, je répète la phrase tranquillement, Calvaire, et ouvre tes oreilles. On ne devrait pas faire ça. J'ai pas dit on devrait interdire ça. J'ai dit on ne devrait pas faire ça. Ce qui implique que la personne en position d'autorité doit agir avec discipline pour se contrôler elle-même pour éviter les pièges.
Ben, c'est un code d'éthique, finalement. Ce sont des règles d'éthique. Il n'y a pas de loi. Le gouvernement n'a pas fait de loi pour vous empêcher de mentir. Mais pourquoi, dans votre vie, vous dites, ouais, passez mon temps à mentir et à raconter n'importe quoi à tout le monde, pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Ben, ce sont des règles d'éthique fondamentales. Elle, ce qu'elle dit, c'est dans votre set de règles d'éthique, là, ne pas mentir, pas sauter à la femme du voisin. T'sais, dans la liste de ces préceptes-là, là, qui, je pense, sont quand même assez valables, là, sauf peut-être quelques exceptions, ben le fait...
La femme du voisin, ça?
Entre autres. Non, mais si t'es célibataire, il n'y a pas de problème. Là. C'est juste pas fin pour ton voisin. Fait que t'assures que le gars n'est pas trop dangereux. Là. Mais tout ça pour dire que c'est impossible que ce podcast-là dérive pas avec ce genre de trucs-là. Mais dans votre site d'éthique, normalement, c'est ça. T'essayes de te donner à toi-même l'autodiscipline de dire... J'ai une responsabilité. C'est ça, la responsabilisation. Je suis professeur, j'ai une responsabilité. Mon devoir, pourquoi on me paye, moi? Pour produire de la connaissance. Est-ce que j'ai des préjugés? Oui. Est-ce que je suis plus de gauche, de droite, socialiste, libertaire? Oui, parfait. Mais quand je suis dans une salle de classe, puis quand j'évalue les articles d'un père, est-ce que je vais tendance à laisser passer des articles sloppy? Pas trop solide parce que, dans le fond, je suis d'accord avec le propos de fond, même si c'est sloppy. Ou est-ce que j'aime mieux faire passer un article de qualité, bien monté, qui dit le contraire de ce que je pense, parce que c'est ça l'intégrité. Là.
Exactement.
Du chercheur. Et je pense que ce serait bien qu'il y en ait plus des comme ça qui osent se prononcer, qui osent faire des pamphlets là-dessus.
Est-ce que quelqu'un qui dit ça comme Nathalie... Est-ce qu'elle est plus respectée par le monde académique ou elle est plus ignorée par le monde académique? J'ai douté de la réponse. Hein. J'aimerais ça lui demander en personne. Mais...
Ouais, écoute, si on a l'occasion un jour, peut-être on la recevra pour son autre livre. Là. Mais c'est ça. Bref, c'est une petite lecture, un petit pamphlet très facile à lire. On vous le suggère.
Il y a beaucoup de monde qui nous disent que leur abonnement à Patreon, ils le regrettent beaucoup parce que leur budget de livre a augmenté.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Là.
Quand même pas si pire pour deux imbéciles. Hein? Ben, c'est plus grosse à toi qu'à moi, mais peu importe. Hey, merci d'avoir été là, puis on se revoit mardi pour le show traditionnel.
Yes.